Ivan Turgenev, Nouvelle Moscovite, le chien. Mais si vous admettez le surnaturel, si vous admettez son intervention dans les choses de la vie réelle, alors permettez-moi de vous le demander, quel sera le rôle de la saine raison? Sur cet argument, Anton Stepanitch se croisa les bras. Anton Stepanitch avait le grade de conseiller ministériel dans je ne sais quel département, et comme il possédait une voix de basse sonore et qu'il parlait en ponctuant ses phrases, il s'était attiré la considération générale. On venait de lui infliger la croix de Saint-Stanislas, comme disaient ses envieux. Incontestable, dit Skolevitch. Mais il n'y a pas à disputer là-dessus, ajouta Kinalevitch. Oh, j'en tombe d'accord, dit de sa petite voix flûtée le maître de la maison, M. Finoplentov, assis dans son coin. Quant à moi, j'avoue que je ne suis pas de cet avis, attendu qu'à moi, à qui vous parle, il est arrivé quelque chose de bien surnaturel. Cette interruption venait d'un monsieur de moyenne taille, du moyen âge, un peu ventru, chauve, qui jusqu'à ce moment était demeuré assis près du poêle sans ouvrir la bouche. Tous les regards se tournèrent vers lui et il y eut un moment de silence. Ce monsieur était un propriétaire du gouvernement de Kalouga, établi depuis peu à Saint-Pétersbourg. Il avait servi quelque temps dans les hussards, avait perdu son argent au jeu, demandé sa retraite et s'était remis à planter ses choux dans son village. Les derniers changements dans la propriété ayant fort réduit ses revenus, il était parti pour la cour afin d'obtenir, s'il se pouvait, quelques petites places. Il n'avait ni moyens de ressources, ni connaissances influentes, mais il comptait fort et ferme sur l'amitié d'un ancien camarade de régiment, lequel, ainsi conçu, comment ni pourquoi, était tout à coup devenu un personnage. Or, autrefois, il l'avait aidé à rosser un grec. En outre, il croyait à sa veine, et il n'avait pas tort. En effet, au bout de quelques jours, on lui conféra la place d'inspecteur de certains magasins du gouvernement, place de bon rapport, honorable par-dessus le marché, et qui n'exigeait pas une capacité transcendante, d'autant plus que les magasins en question n'existaient que sur le papier, et qu'on n'avait pas encore arrêté ce qu'on y mettrait. Mais cela se rattachait à un nouveau système d'économie administrative. Le premier, Anton Stepanitch, rompit le silence général. Comment, mon cher monsieur, vous nous assurez sans badinage qu'il vous est arrivé quelque chose de surnaturel? Enfin, je veux dire quelque chose en désaccord avec les lois de la nature. Mais je vous le garantis, répondit le cher monsieur, qui s'appelait Porfiri Kapitonovitch. En désaccord avec les lois de la nature, reprit avec quelque véhémence Anton Stepanitch, qui tenait évidemment à sa phrase. Oui, da, tout à fait comme vous me faites l'honneur de dire. C'est bien extraordinaire, qu'en dites-vous, messieurs? Anton Stepanitch avait essayé de prendre une expression ironique, mais il manqua son effet, et, pour parler exactement, monsieur le conseiller ne parvint à donner à ses traits que l'expression de quelqu'un qui sent une mauvaise odeur. Et seriez-vous assez bon, reprit-il en se tournant vers le gentilhomme de Kalouga, pour nous donner quelques détails sur une aventure si curieuse? Vous voulez que je vous conte la chose? Oh, c'est facile, répondit le gentilhomme. Et passant au milieu de la chambre, il parla comme il suit. J'ai, messieurs, comme vous le savez probablement, ou peut-être comme vous ne le savez pas, un petit bien dans le district de Kozelsk. Autrefois, j'en tirais quelque chose, mais à présent, comme vous pouvez bien l'imaginer, cela ne me rapporte rien que des querelles, des affaires. Mais ne parlons pas politique. Eh bien donc, dans cette petite propriété, j'avais une métairie bien petiote, potager à l'avenant, petit étang avec des carassis, bâtiment tel quel, entre autres une maisonnette pour reposer mon pauvre corps. Je suis garçon. Voilà donc qu'un jour, il y a de cela 6 ans, je rentrais au logis un peu tard. J'avais fait la partie avec un voisin, mais je vous prie de croire que je marchais bien droit. Je me déshabille, je me couche, je souffle ma bougie. Figurez-vous, messieurs, qu'à peine ai-je soufflé ma bougie, voilà que ça remue sous le lit. Qu'est-ce que c'est? Des souris? Non, ce n'est pas des souris. Ça se gratte, ça marche, ça gigote, ça se secoue les oreilles. Ah, c'est clair, c'est un chien. Mais d'où vient-il, ce chien? Je n'en ai pas. Je me dis, oh, il faut que ce soit quelque chien perdu. J'appelle mon domestique. Je l'appelle Filka. Il vient avec une lumière. Mais qu'est-ce donc que cela? Que je lui dis, mon pauvre Filka, tu fais jamais attention à rien. Il y a un chien caché sous le lit. Un chien? Qu'il dit, mais quel chien? Mais ce que je sais, moi, que je lui dis, c'est ton affaire à toi de procurer des embêtements à ton maître. Voilà Filka qui se baisse et regarde sous le lit avec la chandelle. Mais il n'y a pas plus de chien que sur ma main, il me dit. Je me baisse. En effet, pas de chien. Quelle farce! Je lui fais les gros yeux. Filka se met à rire. Mais imbécile, que je lui dis, que tu te mordes des lèvres. Le chien, quand tu as ouvert la porte, aura passé et filé par l'antichambre. Mais toi, vieille bête, tu ne fais attention à rien, parce que tu dors toujours. Crois-tu par hasard que j'ai bu? Il voulait répondre, mais je lui dis de sortir. Je me mis en boule et cette nuit-là, je n'entendis plus rien. Mais la nuit suivante, figurez-vous, tout recommence. À peine ai-je soufflé la bougie, le voilà qui secoue ses oreilles. J'appelle encore Filka. Il regarde sous le lit, rien. Je le renvoie, j'éteins encore ma lumière. Feu au diable, voilà le chien. Mais c'est bien un chien. Je l'entends respirer, se morciller dans son poil, chercher ses puces. Il n'y a pas à dire. Filka, je lui crie, viens ici sans chandelle. Il vient. Mais bien entends-tu? J'entends, il dit, mais je vois pas Filka, mais je comprends à savoir que le garçon a peur. Eh bien, comment expliques-tu cela, que je lui dis? Mais comment, monsieur, veut-il que j'explique? C'est une tentation, une diablerie. Mais veux-tu bien te taire, gredin, que je lui dis, avec tes diableries? Mais tous les deux, nous n'avions plus qu'un filet de voix. Nous tremblions comme si nous avions eu la fièvre. Nous étions sans lumière. J'allume ma bougie. Plus de chien, plus de bruit, plus rien que moi et Filka, tous les deux blancs comme linge. De sorte que je laissais brûler la bougie toute la nuit jusqu'au matin. Et vous saurez, messieurs, croyez-moi ou ne me croyez pas, depuis cette nuit-là, pendant 6 semaines, la même histoire toutes les nuits. Enfin, je m'y habituais, si bien que j'éteignais ma lumière parce que je ne peux pas dormir quand il y en a. À la bonne heure, que je me dis, vogue la galère, puisque cela ne me fait pas de mal. Ah, on voit que vous êtes un vieux brave, interrompit Anton Stepanitch avec un sourire de moitié compassion, moitié mépris. On voit bien que vous avez été hussard. C'est que, parlant par respect, Vous ne me feriez perdre aucune occasion, reprit Porfiry Capinovitch. Et dans ce moment, il avait bien l'air d'un hussard. Mais écoutez un peu. Il m'arrive un voisin, celui avec qui j'avais fait la partie. Il dîne avec moi de la fortune du pot, et je le refais le 15 roubles. Il regarde. Ah, voilà la nuit, il faut filer, dit-il. Moi, j'avais mon plan. Mais reste à coucher, lui dis-je. Vassili Vassilievitch, demain je te donnerai ta revanche, si Dieu plaît. Il réfléchit. Vassili Vassilievitch réfléchit. Il reste. Je dis qu'on lui fasse un lit dans ma chambre à coucher. Nous nous couchons, nous fumons, nous jasons, nous parlons de femmes comme il arrive quand on est entre garçons, histoire de rire. Je regarde. Et je vois Vassili Vassilievitch qui avait soufflé sa lumière et qui me tournait le dos comme pour me dire « Schlafen Sie wohl !» J'attends encore un peu, puis j'éteins aussi ma bougie. Et imaginez-vous qu'avant que j'eusse le temps d'y penser, voilà la farce en train. Et la bête qui grouille mieux que cela, qui sort de dessous le lit. Marche par la chambre. J'entends ses griffes sur le parquet. Il secoue ses oreilles, puis patatras, il culbute une chaise qui était tout contre le lit de Vassili Vassilievitch. Porfiry Kapitonovitch, qu'il me dit. Et remarque bien, de sa voix ordinaire, tout naturellement. Tu as donc pris un chien, et c'est un chien de chasse. « De chien ?» je lui réponds. « Mais j'en ai pas. J'en ai jamais eu. »« Mais comment cela? Qu'est-ce que c'est donc ?»« Ce que c'est, ben tiens, allume toi-même la bougie, tu sauras ce que c'est. »« C'est pas un chien ?»« Non. » Vassili Vassilievitch se retourna dans son lit. « Tu badines, dit-il, qu'est-ce que c'est ?» Je ne badine pas, que je lui dis. Je l'entends faire frrr avec une allumette, et pendant ce temps-là, le chien est toujours son train, il se gratte les côtes. La bougie s'allume, bosse disparu. Vassili Vassilievitch me regarde. Je le regarde. Mais qu'est-ce que c'est que cette farce-là, qu'il me dit. Eh bien, mon cher, la farce, la voici. C'est que tu mettrais à y réfléchir. Socrate d'un côté et le grand Frédéric de l'autre, qui ne te l'expliquerait pas. Et là-dessus, je lui conte toute l'affaire. Oh ! Si vous l'aviez vu sauter du lit comme un chat échaudé, il ne pouvait pas entrer dans ses bottes. « Des chevaux » criait-il, « des chevaux !» Je me mis à le raisonner, mais il se lamentait toujours plus fort. « Je reste pas ici, une minute de plus !» qui criait. « Mais t'es un homme maudit, damné ! Allez, des chevaux !» J'eus bien de la peine à le faire tenir tranquille. Il voulut avoir son lit dans une autre chambre et de la lumière partout. Le matin, en prenant le thé, il était un peu plus rassuré et il se mit à me conseiller. « Vois-tu, Porfiry Kapitonovitch, qui me dit, tu ferais bien d'essayer de passer quelques jours hors de chez toi. Peut-être qu'alors ce désagrément-là cesserait. Et je vous dirais, messieurs, que c'est un homme que mon voisin, un homme d'un esprit supérieur. Sa belle-mère, entre autres, il l'a entortillé d'une façon étonnante. Il m'a passé des lettres de change. Oh, si, il a choisi son moment. Elle est devenue comme un mouton. Elle lui a donné un pouvoir pour l'administration de son bien. Que voulez-vous de plus? C'est d'une grande force d'embêter que cela à une belle-mère. Je vous en fais juge. Seulement, il ne s'en en a pas trop content, car je le refis encore d'une centaine de roubles. Il était de mauvaise humeur. Tu es guère reconnaissant, qui me dit, tu me traites mal. Mais moi, est-ce ma faute? Au reste, je trouvais la vie bon, et le jour même, je partis pour la ville. J'allais descendre chez un vieux que je connaissais, un aubergiste, un Raskolnik. C'était un petit vieillard, fort vénérable, bien qu'un peu grognon, parce qu'il était tout seul. Toute sa famille était morte. Seulement, il ne pouvait pas sentir le tabac. Il avait les chiens en horreur, tant et si bien que plutôt que de consentir à avoir un chien dans sa chambre, il se serait enfui dans les champs. « Mais comment le souffrirais-je » qu'il disait. « Voilà la bonne Vierge qui me fait l'honneur d'être pendue dans mon appartement, et un impie chien viendrait fourrer là son impur museau. Que voulez-vous? Ça n'a pas d'éducation. Quant à moi, je dis que chacun doit s'en rendre à la sapience que le ciel lui a départie. Voilà mon caractère. Mais à ce que je vois, vous êtes un philosophe, interrompit Anton Stepanitch avec le même sourire. Cette fois, Porfiry Kapitonovitch fronça les sourcils. Philosophe, s'écria-t-il en faisant remuer ses moustaches d'une façon menaçante. C'est pas prouvé, mais j'en donne des leçons de philosophie, moi. Tous les regards se tournèrent sur Anton Stepanitch. Tout le monde s'attendait à une réponse terrible, tout au moins à un regard foudroyant. Mais M. le conseiller ministériel changea son sourire dédaigneux en un sourire d'indifférence. Il bâilla, remua un pied, et ce fut tout. « Eh bien donc, » poursuivit Porfiry Kapitonovitch, « je m'installai chez ce vieux. En faveur de notre connaissance, il me donna sa propre chambre, qui n'était pas des meilleures, et pour lui, il alla s'établir derrière un paravent. Mais c'était tout ce qu'il me fallait. Seulement, j'en eus à endurer pour lors. La chambre était petite, une chaleur, pas d'air, des mouches, tout gluant. Dans un coin, une armoire, comme on n'en voit pas, avec des images antiques, avec leurs chapes bouffies et ternes. Ça sentait l'huile et la boutique d'apothicaire. Sur le lit, deux oreillers. Touchez-y, voilà un talakan qui se met à courir. Aussi d'ennui, je me mis à prendre du thé, à m'en mettre jusqu'au menton. Vilain logement. Je me couche, pas moyen de dormir. Derrière le paravent, mon vieux respirait, geignait, marmottait ses prières. Enfin le voilà qui s'assoupit. J'écoute. Il se met à ronfler, d'abord gentiment, puis à la bonne franquette, puis à un feu roulant. Il y avait longtemps que j'avais éteint ma lumière, mais la lampe brûlait toujours devant les images. Cela me gênait. Je me lève tout doucement, nu-pied, je m'accroupis devant la lampe, pst, je souffle dessus. Rien. Bon, je me dis. Il paraît que ça ne va pas en ville. Bah, je n'étais pas plutôt recouché que le sabbat recommence. Et des grattements et des oreilles qu'on secoue. Bref, le train accoutumé. C'est bien, j'attends dans mon lit. Voyons ce qui va arriver. J'écoute. Et voilà le vieux qui se réveille. Maître, dit-il, maître. Qu'y a-t-il? Est-ce que t'as éteint la lampe? Et sans attendre ma réponse, mon vilain se lève à tâtons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un chien? Un chien? Un maudit Nikonien! Minute, mon vieux, lui dis-je, ne nous fâchons pas. Viens-t'en ici. Il se passe des choses un peu étonnantes. Le vieux sort de derrière son paravent et m'arrive avec un bout de bougie, un rat de cire jaune. Oh, jamais je n'avais vu pareille figure. Tout velu, du poil dans les oreilles, des yeux féroces comme un blaireau, sur la tête un bonnet de feutre blanc, la barbe jusqu'à la ceinture, blanche aussi, et par-dessus la chemise un gilet avec des boutons de cuivre, aux pieds des chaussons fourrés, et tout cela sentant le genièvre d'une lieue. En ce costume, il va aux images, il fait trois fois le signe de la croix avec deux doigts, il rallume la lampe, se signe encore, puis se tournant vers moi, il me dit d'une voix enrouée, « Eh bien, qu'on s'explique! » Alors, sans plus tarder, je lui conte toute l'affaire. Le vieux m'écouta sans lâcher un traître mot. Seulement, voyez-vous, il se grattait la tête. Il s'assied sur le pied de mon lit, comme cela, toujours sans parler. Il se gratte l'estomac, la nuque, il se frotte. Pas une parole. Eh bien, lui dis-je, Fedoul Ivanovitch, voyons, qu'est-ce que tu en dis? N'est-ce pas une tentation, une diablerie, hein? Le vieux me regarde. Une tentation, une diablerie, dit-il. Y penses-tu? Bon, chez toi, dans ta tabagie, mais dans cette maison-ci. Songe-y donc, c'est un lieu saint. Une tentation, vraiment. Mais bien, si c'est pas une tentation, qu'est-ce donc? Le vieux se met à réfléchir et à se gratter en silence. Enfin, il me dit en barbouillant parce que ses moustaches lui entraient dans la bouche. Bon, va-t'en à la ville de Belef. Il n'y a qu'un homme qui puisse t'aider. Et cet homme reste à Belef. C'est un des nôtres. S'il veut te secourir, tant mieux pour toi. Mais s'il veut pas, il n'y a rien à faire. Mais comment le trouver, cet homme-là? Lui demandai-je. Bon, pour cela, je te l'indiquerai bien, dit-il, mais. Comment serait-ce une tentation? C'est une vision, peut-être une manifestation. Bon, mais toi, tu n'es pas à cette hauteur-là. Cela te passe. Allons, tâche de dormir avec le Père et avec Christ. Moi, je vais brûler de l'encens. Demain, nous réfléchirons. Demain, tu sais, il y a plus sage qu'aujourd'hui. Eh bien, donc, le matin, nous tînmes conseil. Mais j'oubliais de vous dire qu'il faillit m'asphyxier avec son encens. Et voici l'adresse que me donna mon vieux. En arrivant à Belef, allez sur la place et à la seconde boutique à droite, demander à un certain Porhorich et lui remettre une lettre. Cette lettre était un chiffon de papier où il y avait écrit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. » À Serge Prochorich, Pervouchine. Quoi, celui-ci, Fyodoli Ivanovitch? Et plus bas, envoie des choux et loué soit le Saint Nom de Dieu. Je remerciai mon vieux et, sans barguigner, je fais atteler un tarantass et je me fais mener à Belef. Parce que je raisonnais ainsi. Bien que jusqu'à présent, mon visiteur nocturne ne m'ait pas fait de mal. Cela ne laisse pas d'être ennuyeux. Et d'ailleurs, cela n'est pas convenable pour un gentilhomme et pour un officier. Qu'en pensez-vous? Et vous êtes un Belef, murmura monsieur Finoplentov. Tout droit. Et sur la plage, je demande après Prochovitch à la seconde boutique à droite. Est-il ici que je demande? Oui, hein, comme dit. Et où reste-t-il? Sur l'Oka, dans le faubourg. Quelle maison? Dans la sienne. Je vais sur l'Oka, je trouve sa maison. C'est-à-dire, ce n'était pas une maison, une hutte. Je vois un homme en veste bleue, rapiécé, casquette déchirée, qui me tournait le dos, tout occupé à bêcher des choux. Je m'avance et je lui dis « Est-ce vous qui êtes Vatel ?» Il se retourne. « Et je vous jure, ma parole, que de ma vie, je n'ai jamais vu Dieu si perçant que les siens. D'ailleurs, une figure grosse comme le poing, une barbe de bouc, pas de dents, c'était un vieux. « C'est moi qui me dit, qu'y a-t-il pour votre service ?»« Ben voilà, lui dis-je, et je lui remets la lettre. » Il me regarde fixement, comme cela, puis il me dit « Veuillez passer dans ma chambre, je ne puis pas lire sans lunettes. » Nous allons dans sa chambre, un vrai chenil, nu, misérable, de la place à peine pour s'y tenir. Sur la muraille, une image noire comme charbon, les têtes des saints toutes noires avec des yeux tout blancs. Il prit dans le tiroir d'une vieille table des besiques de fer, se les posa sur le nez, lut la lettre, puis se mit à me regarder au travers de ses besicles. « Vous avez besoin de moi ?»« Oui, vraiment. »« Eh bien, exposez votre affaire. Nous écoutons. Et représentez-vous mon homme qui s'assied, tire de sa poche son mouchoir à carreaux, l'étale sur ses genoux, un mouchoir tout troué, et qui me regarde d'un air imposant, comme si c'était un sénateur ou un ministre, et qui ne me dit pas de m'asseoir. Et ce qu'il y a de plus singulier, c'est que tout d'un coup la peur me prend. Je suis saisi, mon âme me tombe dans les talons. Il abaissait sur moi son regard de côté. Enfin, suffit. Pourtant, quand je fus un peu remis, je lui contai toute mon histoire. Il ne dit rien. Il fronçait le sourcil, il se mordait les lèvres. Puis de l'air d'un sénateur avec une majesté sans pareille, il me demande sans se presser « Votre nom, votre âge, vos parents, êtes-vous marié ou garçon ?» Puis après s'être encore mordu les lèvres, froncé les sourcils, il leva un doigt et me dit « Posternez-vous devant les saintes images, les purs et secourables évêques, les saints Zosime et Sarva de Solovets. » Je me prosternai tout de mon long, et peu s'en fallut que je n'y restasse couché, tant cet homme m'inspirait de frayeur et de vénération, et tout ce qu'il m'aurait dit, ma foi, je l'aurais fait. Ah oui, monsieur, je vois bien que cela vous fait rire, mais moi je vous garantis qu'alors je n'en avais pas envie. Levez-vous, monsieur, dit-il enfin. On peut vous secourir. Ce n'est pas une punition qui vous est envoyée, c'est un avertissement. Cela veut dire qu'il y a des inquiétudes à votre sujet. Heureusement, il y a quelqu'un qui prie pour vous. Allez-vous-en au bazar et achetez-vous un jeune chien que vous tiendrez toujours auprès de vous, nuit et jour. Vos visions cesseront et outre cela, le chien pourra vous être utile. » Il me semble avoir le ciel ouvert. Vous n'imaginez pas la joie que me firent ces paroles. Je saluai profondément Kroch-Rich et j'allais m'en aller quand je me rappelai qu'il ne serait pas mal de lui faire mes remerciements et je tirai de mon portefeuille un papier de 3 roubles. Mais il le repoussa de la main et me dit « Donnez cela à une chapelle ou aux pauvres, ces services-là ne se payent pas. » Je le saluai encore, me courbant cette fois jusqu'à sa ceinture, et me voilà en marche pour le bazar. Et figurez-vous qu'en m'approchant des boutiques, la première chose que je vois, c'est un homme en souquenille grise portant un chien de 2 mois, couleur cannelle, le museau blanc, les pattes de devant blanches aussi. « Halte !» dis-je à la souquenille. « Combien à la bête ?» 2 roubles. En voilà 3. Mon drôle fut étonné. Il crut que j'étais fou. mais je lui mis mon billet entre les dents et il me porta mon chien à bras tendus jusqu'à mon tarantas. Le cocher fut leste à atteler et le soir même, j'étais rendu chez moi. Toute la route, j'avais eu le chien sur mes genoux et quand il piaillait, je lui disais « Trésor, trésorouchko !» Je lui donnais à manger, je lui donnais à boire. Je fis aborder de la paille et je lui installai un lit dans ma chambre. Je souffle ma bougie, me voilà dans l'obscurité. « Allons, dis-je, ça commence-t-il ? »
« Rien. »
« Alors, voyons, commencerons-nous ? Voyons, canaille ! Allons, un peu pour rire !» Je commençai à devenir brave. « Allons, en avant, nom de tous les diables ! Est-ce que le sabbat fait relâche ?» Je n'entendais rien que le petit chien qui respirait. « Filka !» que je crie. « Filka, avance, imbécile !» Il entre. « Entends-tu le chien ?»« Oh non, monsieur, je n'entends rien. » Il se met à rire. « Ah, tu n'entends plus rien. Alors tiens, voilà un demi-bourg pour boire. « Permettez-moi de vous baiser la main, » dit mon coquin en s'avançant à tâtons. Je vous laisse à penser quelle fut ma joie. « Et c'est ainsi que cela finit ?» demanda Anton Stepanitch, mais cette fois sans ironie. « Oui, les visions finirent là, et je ne fus plus jamais inquiété. Mais attendez, l'histoire n'est pas encore finie. Mon trésor grandit et devint fort et haut sur ses pattes. Forte queue, longues oreilles pendantes, grosse babine, un fort chien d'arrêt. » Il s'attacha à moi d'une façon extraordinaire. De nos côtés, la chasse ne vaut pas grand-chose, et pourtant, quand j'amenais mon chien, je trouvais de jolis coups de fusil à faire. J'allais avec mon trésor rôder dans les environs. Il me levait un lièvre. Fallait le voir après les lièvres, mon Dieu, ou bien des fois une perdrix, ou bien un canard sauvage. Mais notez bien, jamais il ne me quittait d'une semelle. Où j'allais, il allait. Même au bain, je le menais avec moi. Bon, une voisine à nous ne voulait-elle pas le faire sortir du salon, mon trésor? Oh, mais ce fut une bataille rangée. Je finis par lui casser les vitres à cette pigeonnerie. Un jour donc, c'était en été, et je vous dirais qu'il faisait une sécheresse comme on n'en a jamais vu. Dans l'air, c'était comme une vapeur, un brouillard. Tout était brûlé. Un temps sombre. Le soleil est comme un boulet rouge et une poussière à vous faire éternuer. Le monde allait, bouche béante, comme les corbeaux. Je m'ennuyais de rester toujours à la maison, en déshabillé complet, les volets fermés. D'ailleurs, la grande ardeur commençait à baisser. Si bien, messieurs, que je voulus aller voir une voisine à moi. Cette voisine restait à une verste de chez moi. C'était une dame très bienfaisante, encore jeune et fraîche, toujours bien arrangée, seulement un petit peu capricieuse. Ah, chez les femmes, il n'y a pas grand mal à cela. Au contraire, chacun y gagne. Voilà donc que j'arrive au perron et la route m'avait paru diablement salée. Mais je comptais que Nymphodola Simenovna allait joliment me restaurer avec de l'eau d'Erel et d'autres choses fraîches. Déjà j'avais la main sur le bouton de la porte quand tout à coup, de derrière une maison de paysans, j'entends un grand bruit, des fracas, des cris d'enfants. Je regarde, Seigneur Dieu, droit sur moi, s'élance une énorme bête rousse qu'au premier moment je ne pris pas pour un chien. La gueule ouverte, les yeux sanglants, le poil hérissé. Et j'avais à peine fait un soupir d'angoisse quand cet affreux monstre saute sur le perron, se lève sur ses pattes de derrière et me tombe droit sur la poitrine. J'ai un peu la situation. Mort de saisissement, je n'aurais pas pu remuer la main, stupéfié. Je vois encore d'énormes crocs blancs sous mon nez et une langue rouge pleine d'écume. Mais au même moment, voilà qu'un autre corps solide passe devant moi comme un éclair. C'était mon bijou, mon trésor, qui venait à mon secours, et comme une sangsue, il vous empoigne la bête à la gorge. Et voilà l'autre qui râle, qui grince les dents, qui sculbute. J'ouvre la porte cochère, je ne fais qu'un saut dans l'antichambre. J'entre sans savoir où j'étais. J'appuie de tout mon corps contre la porte, et pendant ce temps-là, sur le perron, il se livrait une bataille furieuse. Je me mets à crier au secours. Toute la maison est sans dessus-dessous. Nymphodora Siménovna accourt, ses bandeaux défaits. Dans l'enclos, le tapage diminue un peu, et j'entends qu'on criait. « Arrête, arrête, ferme la porte cochère !» J'entrouvre la porte du perron, seulement entrebâillée. Plus de bêtes sur le perron. Dans l'enclos, des gens qui couraient, les bras levés, ramassant des bûches, comme s'ils avaient eu la peste au corps. « Par le village, il s'est enfui par le village !» criait une vieille femme dont je voyais le bonnet passer par une lucarne. Je sors de la maison. Où est Trésor? Ah, le voilà! Je vois mon sauveur qui revenait à l'enclos, boiteux, déchiré et tout sanglant. « Mais qu'est-ce donc, enfin ?» demandai-je aux gens qui accouraient en foule comme pour un incendie. Et ils me disent « Oh, c'est un chien enragé, un chien au compte. Depuis hier, il rôde par ici. » Nous avions un voisin, un comte, qui avait amené des chiens de je ne sais où, des chiens étonnants. Me voilà une vedette du diable et je cours à un miroir pour voir si j'étais mordu. Non, grâce à Dieu, pas une écorchure. Seulement, vous comprenez, j'étais vert comme un pré, et Nymphodora Semyonovna, étendant sur son divan, sanglotait comme une poule qui glousse. Cela se comprend, primo les nerfs, ensuite la sensibilité. Bon, elle revient à elle et elle me demande d'une voix sourde. « Est-ce que vous êtes encore vivant ?»« Oui, je lui réponds, je suis vivant, et c'est Trésor qui m'a sauvé. »«
Ah, mon Dieu !» dit-elle, « quelle noblesse de sa part ! Est-ce que ce chien enragé l'a tué ?»«
Bon, je lui dis, il n'est pas mort, mais bien blessé. »«
Ah, mon Dieu !» dit-elle, « en ce cas, il faut lui tirer un coup de fusil tout de suite. »«
Ah, pour cela, non, dis-je. » J'essayerai de le guérir. En ce moment, Trésor vient gratter à la porte et je lui ouvre.
« Oh mon Dieu !» dit-elle. « Mais que faites-vous? Il va nous dévorer tous !»«
Mais pardonnez-moi, lui dis-je. Ça ne vient pas comme ça, tout de suite. »«
Oh mon Dieu » dit-elle. « Est-il possible? Mais vous avez perdu l'esprit. »«
Nymphodora, lui dis-je, calmez-vous. » « Soyez raisonnable. » Mais la voilà qui se met à crier. « Vite, sortez avec votre affreux chien !»« Eh bien oui, je m'en irai, lui redis-je. »«
Mais tout de suite, dit-elle, pas une seconde de plus, allez-vous-en, vous êtes un monstre. Mais n'ayez jamais le front de vous montrer devant moi, il est peut-être déjà enragé, lui aussi. »
« Très bien, dis-je, seulement donnez-moi une voiture, parce que je ne risquerai pas de m'en retourner à pied à la maison. » Elle me faisait des yeux.
« Qu'on lui donne une calèche, une drotchki, ce qu'il voudra, mais qu'il parte tout de suite. Oh, mon Dieu, quels yeux il a !»
Là-dessus, elle quitte le salon, flanque un soufflet à sa femme de chambre, et j'entends qu'elle se trouve mal dans l'autre pièce. Eh bien, messieurs, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais depuis ce temps-là, toute intimité fut rompue entre Nymphodora Semyonovna et moi. Et après mes réflexions, je ne puis m'empêcher d'ajouter que pour ce fait seul, je devrais de la reconnaissance à mon ami Trésor jusqu'à la porte de mon tombeau. Je dis donc d'atteler la calèche, je fis monter 13 heures et m'en revins chez moi. Là, je l'examinais, je lavais ses blessures, et je me disais à part moi que je ferais bien de le mener le lendemain dès la pointe du jour à la sage-femme du district d'Ephraim. Oh, cette sage-femme, c'est un vieux paysan qui est bien étonnant. Il murmure des paroles sur de l'eau. Il y en a qui disent qu'il dit mal de la bave de serpent. Il vous la donne à boire et cela vous enlève tout comme avec la main. Et par la même occasion, je me dis, je me ferai saigner, c'est bon pour les saisissements. Bien entendu qu'on ne vous saigne pas au bras, mais à la fossette. Où est-ce donc la fossette? Demanda Monsieur Philoplein-Toff avec une curiosité timide. Vous savez pas? Tenez, voilà l'endroit, sous le poing, après le pouce, où on met le tabac pour en prendre une bonne prise. Voilà. Oh, pour une saignée, c'est le véritable endroit. D'abord, jugez-en vous-même, de la main, c'est du sang de la veine. Là, au contraire, c'est du sang folâtre. Les docteurs ne savent pas ces choses-là. Ils ne s'en doutent pas, ces mendiants d'Allemands. Les maréchaux travaillent bien mieux, et comme ils sont adroits, ils vous posent leurs ciseaux, un coup de marteau, et c'est fait. Eh bien, pendant que je faisais ces réflexions, voilà que la nuit tombait, c'est-à-dire qu'il était temps d'aller se coucher. Je me mets dans mon lit. Et bien entendu, trésor auprès de moi. Mais je ne sais pas si c'était la chaleur, le saisissement que j'avais eu, ou bien les puces ou mes réflexions. Je sais bien que je ne pouvais pas m'endormir. Impossible. J'en étais si ennuyé que je ne saurais vous le dire. Je bus de l'eau, j'ouvris ma fenêtre, je jouais sur la guitare le Moujik de Comarino. Avec des variations italiennes. Rien n'y faisait. Bon, je me dis, je peux pas durer dans cette chambre. Bon, je prends un oreiller, une paire de draps, une couverture. Je traverse le jardin, je vais m'établir sous le hangar au foin. Là, messieurs, oh, je me sentis plus à l'aise. Une nuit douce, très douce, de temps en temps, un petit zéphyr. Comme si on vous passait une main de femme sur la figure. Le foin tout frais qui sent bon, comme voilà votre thé. Les griots chantent dans les pommiers. Par moments, la caille glousse, on sent que la coquine est heureuse, qu'elle est dans la rosée à côté de son roi de caille. Et le ciel si calme. Les étoiles s'allument, on voit venir de petits nuages blancs, blancs comme de la ouate et qui bougent à peine. En cet endroit du récit, Skorevitch éternua, Kimarevitch éternua aussi, seulement pour lui tenir compagnie. Anton Stepanitch leur adressa un coup d'œil de félicitations. Eh bien, poursuivit Porfiry Kapitonovitch, je me couchais donc, mais je n'endormis pas davantage. Je faisais des réflexions et je réfléchissais. Surtout sur les pressentiments, sur ce que m'avait dit ce Prokhorovitch, si justement que je veillais à son grain, et pourquoi c'était à moi qu'était arrivée une aventure si étonnante. Je n'y concevais rien, particulièrement parce que c'était incompréhensible. Mais voilà Trésor qui se met à joindre en sautant sur le foin. C'est que ses blessures lui faisaient mal. Et je dois vous dire ce qui m'empêchait encore de dormir. La lune, oui, vous ne me croyez pas. Je vous l'assure, la lune était là, tout droit en face de moi, ronde, plate, large, jaune. Et je me mets en tête qu'elle s'était mise là, bonté divine, par insolence, et pour me narguer. Moi, je lui tirais la langue. Bien, tu es curieuse de savoir ce que je pense. Je me retourne, mais je la sens sur mon oreille, sur ma nuque.
Cela m'enveloppait comme une pluie. J'ouvre les yeux. Le moindre petit bout d'herbe, la moindre branche dans le foin, la plus petite toile d'araignée, tout est comme ciselé par cette diablesse de lune qui a l'air de me dire « Tiens, vois, regarde !» Il n'y avait rien à faire, j'appuie ma tête sur ma main et je me mets à regarder, puisqu'il le fallait. Mais le croiriez-vous ? J'ai des yeux comme un lièvre. Ils s'ouvrent comme des portes cochères. Je vous jure que je ne sais plus comment on fait pour dormir. Eh bien donc, je dévorai tous ces yeux-là. La porte du hangar était ouverte, toute grande. On voyait à 5 verstes dans la campagne. On y voyait et on n'y voyait pas. C'était clair et trouble, comme il arrive quand il y a de la lune. J'étais donc à regarder sans remuer un cil, quand, tout à coup, il me semble voir quelque chose qui remuait, loin, bien loin, enfin, quelque chose qui passait subitement. Il se passe un moment, et je vois encore comme une ombre qui sautait, oh, pas bien près. Et encore, je la vois un peu plus près. « Qu'est-ce que cela ?» je me dis. « C'est un lièvre !»« Oui, il se rapproche. »« Je regarde, non. »« Non, c'est plus gros qu'un lièvre. »« Ce n'est pas du gibier. » »« Je regarde toujours. » »« L'ombre reparaît et se jette dans la prairie. »« Cette prairie, à cause de la lune, paraissait blanche. »« Et dessus, cela faisait une grosse tache. » C'est clair, c'est un fauve, un renard ou un loup. Le cœur commençait à me battre. Mais qu'est-ce que je craignais? Il ne manque pas de bêtes qui courent la nuit. Oh, la curiosité fut plus forte que la peur. Je me soulève, j'écarquille les yeux. Et voilà tout d'un coup que je me sens un froid, froid, comme si on m'avait mis de la glace dans le dos. Et alors, ô Seigneur, ayez pitié de moi, qu'est-ce que je vois ? L'ombre grandit, se lance par la porte de l'enclos, et je m'aperçois que c'est une bête, une grosse bête à tête énorme. Il passe comme un ouragan, comme une balle. Messieurs, veuillez vous mettre à ma place. Il s'arrête un moment, se met à flairer. C'était mon chien enragé, lui-même. Oh, mon Dieu! Me remuer, je ne peux pas. Crier, pas davantage. Il enfile la porte du hangar. Ses yeux étincelaient. Il pousse un hurlement et se jette sur le foin, droit sur moi. Mais voilà mon brave trésor qui, de son côté, sort du foin et qui ne dormait pas. Et gueule contre gueule, il s'empoigne. Oh, il ne faisait qu'un. Il tombe à bas en peloton. Bon, ce qui s'ensuivit, je ne m'en souviens plus. Je me rappelle seulement que je tombais à pile ou face par-dessus eux et que je m'enfuis par le jardin jusque dans ma chambre à coucher. Pour un peu, je me fourrais sous mon lit. Je l'avoue à ma honte. Il fallait voir mon galop et mes enjambées dans le jardin. Je parie bien que la meilleure danseuse de chez l'empereur Napoléon, qui polque le jour de sa fête, m'aurait pas rattrapé. Et pourtant, quand la douleur fut un peu passée, je mis toute la maison sur pied. Tout le monde s'arma, moi-même je pris un sabre et un revolver. J'avais acheté ce revolver tout de suite après l'émancipation, savez-vous, pour n'importe quelle occasion. Mais quel gredin d'arburier colporteur ! Sur 3 coups, il y a 2 ratés. Nous voilà donc en ordre de bataille, armés, qui d'une lanterne, qui d'un parement de fagot, marchant au hasard, en gare. Non, en gare, hasard, reprendre à nous voilà donc. Nous voilà donc en ordre de bataille, armés, qui d'une lanterne, qui d'un parement de fagot,
marchant au hangar. Nous nous avançons, nous crions, nous n'entendons rien. Enfin, nous entrons, et qu'est-ce que nous voyons? Mon pauvre trésor, Juan, mort étranglé. Ce maudit chien disparu, ni vu ni connu. Alors, messieurs, je me pris à sangloter comme un veau, et je vous le dirai sans vergogne, je tombai à genoux auprès de mon ami, de la pauvre bête qui m'avait sauvé deux fois, et longtemps je lui baisais la tête. Et je restai dans cette posture jusqu'à ce que ma vieille femme de charge, Praskovi, qui était accourue elle aussi à la bagarre, me dit « Qu'est-ce que vous avez, Porfiri Kapitonovitch, à vous périr pour un chien ?»« Oui, dit-elle, Dieu pardonne. Vous devriez être honteux et vous prendrez froid. » Il est vrai que j'étais guère vêtu. Et si ce chien qui vous a sauvé en a perdu la vie, c'est pour lui une grâce et un grand honneur. Enfin, bien que je ne fusse pas de l'avis de Praskovi, je rentrai à la maison. Quant au chien enragé, le lendemain, un soldat de la garnison le tua d'un coup de fusil. C'est que son temps était venu, car ce soldat tirait cette fois son premier coup de fusil, bien qu'il eût une médaille pour avoir sauvé la patrie en 1812. Voilà, messieurs, pourquoi je vous disais qu'il m'était arrivé quelque chose de surnaturel. Le narrateur se tut et se mit à bourrer sa pipe. Nous nous entre-regardions, ne sachant qu'en penser. « Ah, monsieur, c'est sans doute que vous êtes un homme de sainte vie, » dit M. Filaplentov, « et c'est la récompense. » Mais sur ce mot, il s'arrêta court, s'apercevant que les joues de Porfiri Kapitonovitch se gonflaient et devenaient rouges. Ses yeux se rapetissaient. Il allait éclater de rire. « Mais si vous admettez la possibilité du surnaturel et son intervention dans notre vie de tous les jours, pour ainsi parler, » reprit Anton Stepanitch, « quel rôle, après cela, doit jouer la saine raison ?» Personne d'entre nous ne trouva de réponse, et comme auparavant, nous demeurâmes perplexes.